Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, c'est la rue. Comme chaque mercredi, nous réfléchissons à notre thème au travers des enjeux liés au réseau, au web, au contenu numérique. Aujourd'hui, tout cela a fonction d'alerte, de mobilisation et d'information autour du harcèlement de rue. Même aux époques où les femmes pures se promenaient librement le jour, la nuit, le carnaval mélancolique, poétique, enivrant des nuits citadines, leur resta largement interdite. Si la possibilité d'aller à pied sert des activités culturelles de premier plan et encourage un mode d'être au monde essentiel, alors oui, celles qui ont été empêchées d'aller aussi loin que leurs pieds les portaient furent privées, non seulement d'un exercice d'une détente agréable, mais d'une part importante de leur humanité. De Jane Austen à Sylvia Plath, les femmes ont su trouver d'autres thèmes plus circonscrits. Certaines se sont délibérément aventurées dans le vaste monde, mais le nombre de celles qui furent réduites au silence est infiniment supérieur. C'est un extrait de L'art de marcher de Rebecca Solnit, traduit par Auristel Bonny, et c'est paru en 2012 aux éditions Actes Sud. Vous écoutez France Culture, il est 14h passées de 2 minutes. Bienvenue à vous dans les Nouvelles Vagues. Vers 14h50, chaque jour, les nouvelles vagues passent au singulier pour entendre des récits de moments marquants. Depuis lundi jusqu'à vendredi, c'est le chanteur belge Arnaud qui se prête à l'exercice pour nous. Aujourd'hui, il nous parle de deux films, Poor Co de Ken Loach et Blow Up d'Antonioni. C'est aussi l'occasion pour lui d'évoquer la fin des années 60, moment de sortie en salle de ses deux longs métrages et la culture des jeunes gens de sa génération. C'est le troisième moment donc d'une semaine d'émissions consacrée à la rue. Lundi, elle était personnifiée, fantasmée, critiquée, en tout cas prise comme miroir des dysfonctionnements de la société dans un certain rap français. Hier, mardi, les œuvres d'art s'y révélaient dans la rue ou demeuraient secrètes. Au-delà des graffitis, nous faisions avec Marie Escorne une histoire des pratiques artistiques à même la ville. Dans cette histoire, les artistes femmes étaient minoritaires et dans l'espace urbain décrit par le rap lundi, les femmes étaient quasi absentes. Peut-être est-ce la conséquence du déficit de liberté de circulation des femmes dans la rue, d'un cercle vicieux qui veut que l'occupation majoritaire de l'espace public par les hommes leur confère un sentiment d'impunité propice à renforcer le harcèlement sexiste. À l'occasion de la diffusion du documentaire Femmes de la rue à la télévision belge en 2012 et à la réaction d'un journaliste français laissant entendre que rien de semblable n'existait dans son pays, jeunes et moins jeunes femmes se sont emparées de l'espace d'expression offert par le web pour témoigner de l'usure quotidienne des remarques et agressions sexistes dans l'espace public, dans la rue. Dessins, hashtags sur les réseaux sociaux, blogs, vidéos pédagogiques, vidéos virales, tout est bon. Mathilde Roland, vous êtes collaboratrice parlementaire de la députée PS Marie Le Verne. Elle est mobilisée autour de la révision, en tout cas de l'analyse, par une commission paritaire de l'article 14 d'une loi sur la sécurité des transports en commun à l'échelle nationale. On y reviendra, mais c'est parce que cet article porte précisément sur le harcèlement. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Anaïs Bourdet, vous êtes au téléphone, vous avez créé le site Tumblr Paye ta Schneck et vous êtes en ligne depuis l'Argentine. Bonjour à vous, vous nous
Bonjour.
Entendez ? Il y a du vent ? Non, c'est vous
oui.
qui respirez. Si, il y a du vent.
Je vous entends très bien.
D'accord, c'est parfait. Et puis bientôt va nous rejoindre Héloïse Duché qui fait partie du collectif Stop Harcèlement de Rue. Alors puisqu'on décide de réfléchir à la manière dont à la fois information, sensibilisation, mobilisation se passe sur les réseaux, vous diriez que ça a été un déclic pour vous, en tout cas l'utilisation des réseaux a été une évidence ?
Oui, en fait, on voit très bien la force des réseaux, la façon dont une information peut se propager très vite. Et moi-même, je dois reconnaître que la majeure partie de mon militantisme, c'est par Internet, par les réseaux, puisque on peut toucher un public qui va au-delà de notre cercle d'amis, et donc c'est vraiment une façon efficace de mobiliser autour de causes. Et en l'occurrence, le harcèlement sexiste concerne quand même beaucoup de femmes. Donc c'est un sujet qui a vocation à se propager très rapidement, oui.
Anaïs Bourdet, vous aussi, vous faites le choix privilégié d'une action militante sur la toile ?
Oui, déjà parce que ça permet de faire des grandes actions à budget zéro, mais aussi parce qu'au départ, il y avait énormément de déni autour de ce sujet. Donc le premier objectif, c'était d'abord d'informer Donc le côté viral, effectivement, d'Internet était un outil génial pour ça.
Quand vous dites au départ, ça se situe à quel moment pour vous ?
Pour moi, en fait, le terme harcèlement de rue est apparu en 2012, justement au moment de la vidéo de Sophie Peters dont vous parlez. Et pour ma part, c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé, que j'ai ouvert Paytechnik et que la lutte contre ce harcèlement a commencé. Et c'était les premières fois qu'on en parlait, en fait.
On va revenir sur ce documentaire, mais peut-être préciser ce que l'on décrit quand on parle de votre Tumblr Paytechnik. On y trouve quoi ?
Alors c'est 100% des témoignages en fait de personnes qui m'envoient les phrases qu'on leur a dites dans la rue, enfin de femmes, et donc ce sont uniquement des témoignages, uniquement les phrases qu'on leur a dites, géolocalisées avec donc la ville et plus ou moins le lieu dans la ville, pour montrer déjà que ça se passe partout, que beaucoup de femmes sont concernées par ce problème et que ça ne se situe pas uniquement dans les quartiers dits sensibles, mais dans toutes les villes, dans tous les quartiers, dans tous les milieux sociaux, absolument partout.
Anaïs Bourdet, et vous, Héloïse Duché, vous utilisez le mot militantisme, c'est donc rapporté à une lutte pour quoi ? L'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous diriez que l'espace de la rue, c'est juste un des espaces de votre mobilisation ou c'est un espace central pour vous, cette question-là ?
C'est un des espaces de mobilisation puisque, en fait, ce à quoi on aimerait parvenir, c'est vraiment l'égalité dans tous les domaines. Mais ben, c'est vrai que la rue, c'est vraiment l'endroit où... où on est toutes le plus souvent, et c'est quand même frappant de remarquer que, dû à notre genre, on s'y sent moins en sécurité ou plus vulnérable qu'un homme. Et donc ça fait partie des premiers espaces à se réapproprier.
Héloïse, et pour vous, Anaïs Bourdet, l'espace de la rue, c'est un endroit particulier dans votre lutte ou dans votre militantisme ?
Moi, oui, je me concentre beaucoup sur cet espace-là, mais de manière plus générale, c'est clairement pas le seul l'espace dans lequel il faut lutter. C'est l'espace de la rue, je dirais, il illustre pas mal de problématiques différentes. Au sein du harcèlement de rue, on peut parler d'énormément de thématiques, de formes d'oppression différentes. Donc c'est un sujet très vaste, déjà, qui traite beaucoup de choses, mais c'est pas le seul espace de lutte, clairement.
Je pars parce que je n'aime pas le quartier, en fait, je me fais tout le temps embêter des remarques sexuelles, voilà.
Et des choses comme ça, comme...
Comme quoi ?
Oui.
Tu veux vraiment que je te dise ?
Oui.
Genre, si je pouvais, je te la mettrais, voilà, par exemple. J'ose pas dire la phrase parce que c'est tellement vulgaire que voilà. Si je pouvais, je te la mettrais dans le cul. Voilà.
Et tu as.
Ça, c'est mon quotidien quand je rentre à la maison. Ben non, je m'habille normalement, enfin, je crois. Juste les mots suffisent à mettre une emprise sur une personne. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait mal. Voilà. Je me sens pas bien quand. Quand on parle comme ça, parce que je ne fais rien de particulier pour être traitée comme ça.
J'ai l'impression que je commence à faire des autres choses moi-même,
ouais.
À plus porter des jupes,
ouais, bah,
par exemple.
Oui, mais ça, j'ai pas envie qu'on m'empêche non. D'être moi parce que ça, ça veut dire aller dans le sens de ce qu'ils veulent qu'on fasse, et non, ça non.
On entend ici un documentaire, ce fameux documentaire de Sophie Peters que vous évoquiez toutes les deux. Un documentaire qui est diffusé en 2012, d'abord à la télévision belge et puis ensuite qui devient une forme de vidéo virale sur Internet. Pourquoi est-ce que c'est un déclic pour vous ? Pourquoi est-ce que vous en parlez toutes les deux comme un déclic, Mathilde Roulon ?
Je pense que c'est la première personne déjà qui a réalisé ce type de documentaire. Et auparavant, certainement que... En fait, en tant que femme, on le subissait et personne n'en parlait vraiment. Donc, vraiment, c'était intériorisé, c'était normal. On savait qu'on subissait ça. Et puis, il n'y avait rien qui était vraiment fait, même entre nous. Hein, je pense que entre femmes, entre copines, on ne le racontait pas forcément puisque c'était un peu induit. Oui, on le vivait toutes et c'était un fait, c'était comme ça. Mais il se trouve que non, grâce à ce documentaire, grâce au Tumblr, d'ailleurs, je suis ravie d'entendre Anaïs, ce que j'avais posté au début du Tumblr. Et donc ça a permis une prise de conscience plus générale, oui.
Qu'est-ce qu'on voit dans ce documentaire de Sophie Peters ?
Tout d'abord, elle se filme en fait au quotidien en caméra cachée, simplement elle déambule dans la rue.
En Belgique.
En Belgique, voilà, dans un quartier de Bruxelles, sans rien de plus. Et donc, on entend les commentaires auxquels elle est soumise, les sifflements, les invitations. Et puis après, elle interview des filles qui vivent dans le même quartier pour savoir si elles le vivent aussi et comment elles y font face ou comment elles. Comment elle l'accepte en fait, comment elle se résigne. Et cet extrait qu'on vient d'entendre, c'est vraiment, enfin, c'est le pire. La personne est quand même prête à déménager du quartier par lassitude en fait.
Ouais, elle interviewe une de ses amies et donc elle lui demande. Et en effet, on entend cette jeune femme qui dit aussi que les mots suffisent à mettre une emprise hein, sur la personne, suffisent à faire mal. Elle dit je me sens mal quand on me parle comme ça. Donc il y a aussi l'expression aussi très claire et très littérale hein, du mal-être que provoquent ces remarques là. Pour vous, Anaïs Bourdet, c'est aussi un déclic, femme de rue ?
Oui, ça a été. J'étais assez sidérée en le voyant parce qu'effectivement, comme disait Mathilde, c'est quelque chose qu'on vivait toutes depuis longtemps, mais on n'avait pas vraiment conscience du fait que c'était grave en fait. On était résignés, on le vivait, point, on en parlait même très peu. Et effectivement, je me suis complètement reconnue dans ce reportage. Bon, après, ce reportage a quand même quelques problématiques autres qui aussi m'ont motivée à monter Peïta Schneck. Je sais qu'il y a beaucoup de racisme qui s'est initié dans le débat du fait de ce reportage qui était dans un quartier donc très musulman. Et là-dessus, je tiens à corriger le tir. Les personnes issues de l'immigration n'ont pas le bénéfice, le privilège du harcèlement de rue. Mais ce documentaire a vraiment permis, oui, d'ouvrir les yeux à tout le monde. Toutes les femmes, en fait, on s'est toutes rendues compte qu'on le vivait. Et déjà, ça a été énorme. C'est la première fois qu'on en parlait.
L'accusation de racisme, elle a été retournée à l'égard de Sophie Peters, qui s'en est absolument défendue, en disant que c'était une accusation qui était pour une grande part malhabile et qui était une façon d'éteindre le sujet, en fait, en le récupérant, en l'amenant sur un autre débat, qui était un débat de la discrimination et du racisme. Il se trouve qu'on faisait ici, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, une émission avec une géographe qui nous disait à quel point est-ce que le chiffre, par exemple, de 100% de femmes prenant les transports en commun pouvait se réclamer et avoir vécu une agression de type sexiste ou un harcèlement sexiste. Et je lui demandais comment ça se fait que ce chiffre n'était pas entendu. Elle me disait qu'il est entendu aujourd'hui en 2016 parce qu'il peut se greffer sur des visions de la société raciale ou des visions de la société policière. Vous avez l'impression que c'est un débat qui est récupéré par des personnes qui n'entendent pas le caractère sexiste ?
Ah, complètement, ça fait partie, au final, je lutte autant pour qu'on soit tranquille dans la rue que contre le racisme, au final, sur Peïta Schneck. C'est très facile de récupérer ce genre de problématiques pour le compte d'idéaux d'extrême droite, etc. Et c'est extrêmement délicat, du coup, d'en parler. Et je sais bien que Sophie Peters n'avait absolument aucune intention de pointer du doigt une communauté plus qu'une autre, mais voilà, il faut faire très très attention à ce qu'on dit en permanence, sinon ça peut très vite glisser vers le mauvais côté.
C'est aussi à l'occasion de la diffusion de ce documentaire qu'un journaliste français, il me semble que c'était du Nouvel Obs, avait écrit un commentaire en disant qu'il avait l'impression que c'était une spécificité de ce quartier-là, en tout cas de la ville, et qu'il ne connaissait pas d'équivalent en France, en tout cas dans la ville dans laquelle il vivait, et ce après quoi a été créé ce fameux hashtag harcèlement de rue qui réunissait des témoignages. Oui. À l'occasion de ce rassemblement de témoignages et de cette flambée de témoignages sur le web, beaucoup d'hommes se sont dit très surpris de ce qu'ils apprenaient. Est-ce que vous avez rencontré autour de vous, tant dans des sphères politiques que dans des sphères amicales ou plus personnelles, Mathilde Roulant, cet étonnement ?
Oui, absolument. Je pense vraiment, je peux comprendre que ce soit difficile à admettre pour celui qui ne le vit pas. Vraiment, je pense que s'il se trouvait dans la peau d'une femme, peu importe l'apparence d'ailleurs qu'on peut avoir, il s'en rendrait vite compte. Donc je peux le comprendre. Ceci dit, il y a aussi une autre partie à cet étonnement, c'est aussi que ça permet un peu de... en son cas personnel, de se dédouaner et de dire « Non, moi, je ne connais pas ça, sous-entendu, je ne le pratique pas. » Donc, et je pense qu'il y avait une partie d'étonnement sincère, mais il peut aussi y avoir une partie de « Moi, je me mets en dehors de cela, je ne connais pas le phénomène. »
Et donc, je n'agis pas.
Et donc, je n'agis pas, voilà. Ça permet aussi de ne pas agir. Non, je n'étais pas du tout informée. Et donc, grâce aux hashtags, aux réseaux sociaux et aux différents témoignages qui sont recueillis sur plusieurs sites, c'est plus possible de fermer les yeux et de refuser de le voir, non.
Magnifique. Excusez-moi, vous êtes magnifique.
Merci.
Je vous regarde depuis tout à l'heure, là, je suis descendu par là, je vous trouve sublime. Vraiment.
Bah, merci, c'est gentil.
C'est quoi, vous dérange pas qu'on discute un petit peu ?
Bah non.
Ouais, sûr, c'est vrai.
Ouais.
T'as un petit numéro pour qu'on puisse prolonger la discussion.
Non, par contre, le numéro, désolé, mais j'ai un copain, je vais pas donner mon numéro comme ça, à droite et à gauche. Ouais.
Mais tu sais, les copains, c'est rien, un copain. Un copain, ça se...
Non.
En tout cas, vraiment, je te trouve magnifique. J'espère que...
Arrête de me toucher. Par contre, on parle, tout va bien. D'accord.
Non, mais il faut pas rester comme ça sur tes arrières, tranquillement. Moi, je suis pas méchant.
Mais je t'ai dit, arrête de me toucher, donc je vais pas te parler.
Ton accent, il est trop sexy, vraiment.
Non, mais
est-ce que j'ai l'air méchant?
Non,
j'ai l'air méchant.
Arrêtez de me parler comme ça.
Non, mais madame, je discutais juste avec elle. C'était...
Non, mais elle ne peut pas discuter avec vous, donc
c'est pas méchant, il faut relativiser.
Non, mais arrêtez.
Il faut que la police vienne pour vous dire arrêtez.
Pourquoi la police, madame? C'est un crime que j'ai fait.
Ça suffit. À partir du moment où quelqu'un vous dit non, c'est que c'est non. Vous comprenez ça?
Vous comprenez ça, c'est une des femmes qui réagit à une scène. On est dans un décor abribus, grande ville, un jeune homme aborde une jeune femme et on l'entend, devient de plus en plus insistant et réagissent petit à petit des femmes un peu plus âgées qui sont assises dans l'abribus. Il se trouve que c'est une caméra cachée, que c'est un extrait d'une émission qui s'appelle Cam Clash, présentée par Baptiste Etchegaray, diffusée sur France 4 et qu'on peut aussi trouver sur le web, sur la plateforme YouTube. Ce que met en avant cette vidéo que vous aviez souhaiter entendre les unes et les autres, c'est le rapport à l'entourage, c'est la manière dont cette insistance, alors ici elle est très prononcée, hein, y a plein de graduations de ce qu'on peut appeler le harcèlement de rue, la manière dont l'autre, l'entourage, le perçoit. Quand on entend ce jeune homme, ce jeune comédien dire « je ne suis pas méchant » ou dans la suite de la vidéo « qu'est-ce que je fais de mal ?» Est-ce que c'est une des difficultés que vous rencontrez les unes et les autres dans la mobilisation contre le harcèlement de rue, cette façon de minimiser ?
Oui, bien sûr, ça peut être bien souvent excusé ou confondu avec avec de la drague. Sauf que la courtoisie, c'est de ne pas aller au-delà d'un refus quand une personne exprime clairement son refus ou on voit qu'elle n'est pas intéressée. Enfin, voilà, il y a quand même, c'est vrai, une difficulté à faire comprendre le phénomène et à le reconnaître vraiment, puisque parfois, c'est même pas injurieux avec une insulte, c'est de l'insistance. Et donc, il faut quand même bien faire la différence entre de la drague et du harcèlement. Donc, c'est un peu ça qui est compliqué à saisir parfois, oui.
Compliqué, ça me paraît étrange. Je vous donne la parole dans un instant, Anaïs Bourdin, mais oui. Je trouve étrange qu'on puisse dire à 14h18 sur France Culture au 21e siècle que ça paraît compliqué de présenter le harcèlement de rue ou cette insistance comme quelque chose qui a du mal à se faire entendre. C'est quand même, enfin moi je trouve ça très étrange parce qu'il y a quand même des années de mobilisation, des années de diffusion, des années de témoignages aussi par rapport à toutes sortes de violences ou de discriminations hommes-femmes. Comment ça peut encore être compliqué à faire entendre, Anaïs Bourdin?
C'est une très bonne question à laquelle j'aimerais fortement avoir une réponse. Moi, j'aimerais voir mon projet s'éteindre tout seul et ne plus avoir besoin de le tenir. Mais je pense qu'on évolue dans une société qui a encore plein de traces de sa construction patriarcale et qui fait qu'on maintient ces comportements en vie, qu'on les tolère. On le voit encore aujourd'hui avec le Sénat qui ne prend pas au sérieux la problématique qu'on dénonce, justement, comme vous le disiez depuis des années. C'est un problème qui n'est pas réellement pris au sérieux. C'est mal expliqué. Je sais pas. Encore une fois, comme disait tout à l'heure Mathilde, c'est il faut arriver à se mettre à la place des personnes qui le vivent. Et je pense qu'il faut commencer par les écouter pour pouvoir se rendre compte de ce qui se passe. Mais il y a très peu de gens qui font cet exercice.
On entend aussi dans cette caméra cachée des femmes alors qui, elles, vivent la situation comme une situation réelle et qui sont, pour une part en tout cas, plus âgées. Je citais en introduction de cette émission un texte de Rebecca Solnit qui insiste sur le fait que le temps passant, elle a eu la sensation de davantage avoir conscience de ses droits, davantage avoir conscience de sa puissance de dire non, davantage avoir conscience de sa possibilité dans l'espace public de refuser fermement et de s'appuyer sur les autres, de pouvoir se retourner vers la communauté des personnes présentes. Est-ce que vous diriez que dans ceux que vous rencontrez, notamment dans les témoignages qu'on vous envoie, les jeunes femmes sont plus fragiles? Anaïs Bourdin.
Non, je dirais pas ça. Je vois aussi beaucoup de jeunes femmes qui répondent et remettent très bien à leur place leurs agresseurs. Je vois aussi plein de jeunes femmes qui interviennent pour d'autres personnes qui sont harcelées, que ce soit pour des raisons racistes, homophobes, transphobes, quelles qu'elles soient.
C'est d'ailleurs le cas dans cette Cam Clash.
Oui, il y a des gens qui interviennent d'un petit peu tous les âges, mais ils sont très rares. Après, oui, effectivement, je pense que les femmes, en grandissant, moi-même, qui maintenant ai 31 ans, je subis le harcèlement sexiste depuis que j'ai à peu près 12-13 ans. Plus je grandis, plus je réponds, plus je viens en aide quand je suis témoin d'une situation gênante, de violence. Je sais pas, c'est un sujet peut-être qu'on s'approprie au fur et à mesure aussi, avec lequel on finit par ne plus en pouvoir, en fait. C'est mon cas personnel, je parle pas au nom de toutes les femmes. Mais moi, je n'en peux plus de ne rien dire, je n'en peux plus de laisser faire, donc plus ça va, plus je réponds. Mais je ne sais pas si réellement on peut séparer comme ça les personnes vis-à-vis de leur âge. En fait, je ne suis pas sûre que ce soit très pertinent, en fait.
Je vous vois acquiescer, Mathilde Roulon.
Oui, parce que je pense que pour mettre fin au sentiment de vulnérabilité des femmes, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les femmes, mais en tout cas, moi, personnellement, pour mettre fin à notre sentiment de vulnérabilité, il faut mettre fin aussi au sentiment d'impunité de l'autre côté. Et donc, je pense que le fait de réagir, ça participe à mettre fin à cette impunité. Si un homme sait que ça va passer et qu'il va rien se passer, que personne ne réagira autour... Bah voilà, ça, non pas que ça l'encourage, mais ça lui permet de continuer. Alors que si il a vu des vidéos virales dans lesquelles les gens réagissent autour, peut-être que ça l'en dissuadera. Car bien souvent, lorsqu'il y a des réactions au harcèlement de rue, la personne, le harceleur, perd un peu ses moyens. Enfin, c'est ce que je remarque dans les témoignages que je lis, où ça fait vraiment perdre ses moyens à la personne qui harcèle. Donc c'est déjà une première façon de réagir. Et donc, oui, mettre fin à leur impunité pour mettre fin à notre sentiment de vulnérabilité.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
A brother call a girl a bitch or a hoe, trying to make a sister feel low. You know all of that gots to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I bring crap to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block, I had my cut off shorts on, right? Cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said,
yeah, me bitch.
And laughed. Since he was with his boys, he tried to break fly. I punched him dead in his eyes, said,
who you calling a bitch?
U-N-I-T-Y. Days at work give you an attitude and you erupt. And take it out on me, but that's about enough. You put your hands on me again, I put your ass in handcuffs. I guess I fell so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had. And I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat down by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. A man don't really love you if he hits you. Yeah. This is my notice to the tool. I'm not taking it no more. I'm not your personal whore. That's not what I'm here for. Ain't nothing good gon' come to you. Do you do right by me? Brother, you ain't sitting in the bitch.
You and I do.
Eh bien, le sexisme, c'est l'attitude qui prétend établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur sexe. Nous avons commencé à parler de sexisme à propos des insultes que les hommes déversent volontiers contre les femmes. Il y a une loi qui, je crois, date de 1945, et qui interdit de traiter un homme de sale juif ou de sale bicot. Et si on insulte un arabe, un juif de cette manière-là, on peut être traîné devant les tribunaux. Mais qu'on dise à une bonne femme, ou qu'on dise d'une bonne femme salope comme toutes les bonnes femmes, ou hystérique comme toutes les bonnes femmes, il n'y a pas de recours. Et nous avons créé justement à quelques-unes du MLF une ligue du droit des femmes où nous essayons de lutter contre toutes les formes du sexisme. Nous avons commencé par celle-là. Nous voudrions obtenir que la loi qui interdit toute discrimination de race mette également toute discrimination sur les sexes. Et nous voudrions obtenir cette non-discrimination, non seulement sur ce plan dont je viens de parler des injures, qui est important, quoi, que, plus qu'il ne, ça n'en a l'air, mais parce que c'est toute une mentalité que ça amènera à réformer.
Simone de Beauvoir, au micro de Jean-Louis Servan-Schreiber. On est en 1975 dans l'émission Questionnaire diffusée sur TF1. Alors on disait que à la fois il y avait eu une sorte de réveil autour de la diffusion de ce documentaire en 2012. En même temps, on entend cette voix qui nous arrive de 40 ans en arrière et qui dit quasiment mot pour mot strictement la même chose, à l'exception près qu'elle dit qu'il n'y a pas de recours légal. Mathilde Rouland, vous êtes collaboratrice à l'Assemblée nationale pour une députée PS, Marie Leverne. Où est-ce qu'on en est d'un point de vue légal, de recours, et que dit la loi ?
Alors, légalement sont punis les harcèlements sexuels qui ne sont pas les harcèlements sexistes. Par harcèlement sexiste, on entend plus les attitudes comme les sifflements ou les remarques, mais pas nécessairement. Si vous voulez, dans le harcèlement sexuel, il faut tenir des propos à connotation sexuelle. Alors que les harcèlements, ça peut être autre chose, hein, des regards, les harcèlements sexistes, ça peut être des regards lubriques, des sifflements, comme je disais. Et donc, c'est un peu dans une zone grise du droit, c'est vrai. C'est pour cela que, comme il touche beaucoup les transports en commun et la rue, Madame la députée Marie Leverne a voulu intégrer à la loi dans la sécurité dans les transports un article qui comportait des mesures de prévention, en fait, contre ces harcèlements sexistes. Parce que, aujourd'hui, dans aucun texte de loi, il y a le mot harcèlement sexiste. Alors que c'est ce dont souffrent beaucoup de femmes.
Et c'est précisément cet article que n'ont pas jugé bon d'entériner les sénateurs, c'est ça ?
Voilà. En fait, par des arguments techniques, les sénateurs ont supprimé l'article. Sauf que Madame Leverne et toutes les personnes qui se sont mobilisées ces derniers jours sur cet article 14 pensent que la loi, c'est également un vecteur de transformation de la société et il faut que les pouvoirs publics s'emparent du problème. Ça fait justement trop longtemps que ça dure et c'est pas une fantaisie que de l'inclure dans un texte de loi, pas du tout. Et ça donne justement aux femmes aussi le sentiment, elles savent qu'elles sont écoutées et que le problème est reconnu.
Et la loi, c'est la loi. C'est-à-dire que la loi, c'est aussi la limite et la frontière sur laquelle peut s'appuyer un discours dans la rue, jour et nuit, pour pouvoir être dit le droit. Comment, puisque cet article est discuté précisément en commission paritaire en ce moment, comment entendre le fait que ce ne soit pas, qu'on ne s'empare pas dans ces lieux de la République française d'une question aussi importante?
Je pense qu'il y a beaucoup de députés qui sont sensibles, sauf que voilà, parfois il y a pour certains parlementaires peut-être une vision trop technique, si j'ose dire, mais c'est pas la majorité. Le projet, enfin en tout cas l'article 14 a été soutenu par beaucoup de parlementaires, oui, beaucoup de députés et sénateurs.
Vous avez l'impression que à l'échelle politique et dans les différents lieux de l'établissement de la loi, de la réflexion, c'est un sujet qui est bien entendu?
J'ai l'impression que depuis quelques années, en tout cas, la cause en général du droit des femmes progresse et il y a beaucoup de communication autour du droit des femmes et une réelle prise en compte des problèmes, des avancées notables qui sont toutes récentes. Donc je pense que c'est un problème, c'est une problématique qui continue à émerger et que oui, c'est plutôt bien pris en compte actuellement.
Il y avait dans cette prise de parole de Simone de Beauvoir une comparaison faite entre une loi qui interdit une discrimination raciste et une loi qui à l'époque n'interdisait pas ou ne soulignait pas assez une discrimination sexiste. Ce rapprochement-là, est-ce que ça peut être un levier, un branchement des luttes? On entendait aussi juste avant Queen Latifah avec Unity. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à envisager ou qui s'envisage déjà de ce point de vue-là, à la fois discrimination raciste et discrimination sexiste?
C'est vrai que, en tout cas, comme la lutte contre le racisme, la lutte contre le sexisme, c'est une lutte qui vise à parvenir à l'égalité. Donc oui, il y a très certainement des rapprochements à faire.
Bonjour, vous êtes arrivée, on a annoncé tout à l'heure, Héloïse Duché, votre arrivée ici. Vous faites partie du collectif Harcèlement de rue. Alors on a commencé la discussion depuis un moment déjà, mais on a discuté notamment du tournant que constituait 2012 et la diffusion du documentaire Femmes de rue tourné en Belgique. Pour vous, c'est aussi un moment de mobilisation, de déclic de mobilisation?
Alors il n'y a pas eu de vraie mobilisation, puisque là, mobilisation des réseaux sociaux, pour moi, sont plus des prémices qu'une mobilisation. En tout cas, il y a une prise de conscience qui est quand même restée dans le milieu féministe à ce moment-là, mais une prise de conscience et via les réseaux sociaux, effectivement, des discussions avec des féministes qui ne se connaissaient pas forcément sur ces questions-là, et puis d'autres personnes qui se sont mis à écrire, qui n'étaient pas forcément dans des organisations, et puis pouf, on n'en entend plus parler. Puis c'est revenu après, mais sur le coup, c'est vrai que ça, mais c'est ça qui est intéressant dans les réseaux sociaux, en fait. C'est ce moment où émerge quelque chose, ça prend pas, mais en tout cas après, quand ça prend, on peut y revenir puisque il y a des traces. Après, oui, le film de Sophie Peters a pu être un tournant en Europe francophone. Ça faisait très longtemps qu'au Canada, qu'aux États-Unis, qu'en Allemagne, qu'en Autriche et qu'en Grande-Bretagne, ces questions-là étaient traitées par des féministes et que les avancées étaient réelles.
Vous, vous dites qu'il y a une grande séparation entre ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux de circulation, de témoignages, et que j'appelais assez hâtivement mobilisation, et une mobilisation que vous sépareriez.
Pour moi, une mobilisation, c'est le moment où effectivement on sort des réseaux sociaux, on se rencontre et on arrive à mobiliser plus largement que les très très peu de personnes qui sont sur Twitter. C'est rien, Twitter. Et voilà, et que quand on arrive à utiliser le fait que les journalistes dans leurs articles mettent 4 tweets retweetés 100 fois, ce qui représente donc rien, et disent regardez, il se passe quelque chose. Quand on arrive à utiliser ça pour les faire sortir et pour les faire venir là où il se passe réellement quelque chose, et que donc, après on a un rendez-vous avec un ministère ou avec une mairie et que tout ça devient quelque chose réellement. Et donc là, de la mobilisation arrive une victoire.
Je suis pas forcément d'accord avec ça.
Alors on vous écoute. Anaïs Bourdet, vous êtes au téléphone.
Moi justement, mon projet est 100% en ligne, en fait, mais c'est pas pour défendre mon projet plus que ça, c'est plus pour dire qu'il n'y a pas de militantisme, de sous-militantisme ou de sous-mobilisation.
C'est pas ce qui était dit, il me semble.
Non.
Excusez-moi.
En fait, je pense pas qu'il y avait de hiérarchie entre des mobilisations, mais il y avait des temps, en fait, assez différents, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le moment où Anaïs, qui a donc monté Payta Schneck, est contactée par une institution qui veut faire quelque chose réellement sur le terrain, est un moment où la mobilisation a gagné. Maintenant, le travail qu'on fait d'éducation populaire, qui est très très fort sur les réseaux sociaux, sur la page Payta Schneck ou sur la page de Stop Harcèlement de rue, les community managers n'arrêtent pas de commenter, de faire vivre le débat. Sauf que tant que ce débat-là n'est pas dans la presse, puis à l'agenda public et politique, la mobilisation ne sort pas d'un cercle virtuel.
En même temps, ce que disait Anaïs Bourdet, si je vous entends bien, c'est que c'est un lieu de mobilisation pour vous, Anaïs Bourdet.
Ah bah oui, complètement.
Ah, complètement.
Complètement, oui.
Et c'est un premier temps sur lequel il n'y a pas les deuxièmes temps.
Voilà, la difficulté, c'est de déclencher le deuxième temps, effectivement. Et là, c'est vrai qu'on peut, on peut pagayer pendant un moment avant de le voir arriver.
Par exemple, là, en ce moment, le harcèlement, on est en lutte en ce moment à Stop Harcèlement de Rue et avec Païta Schneck sur le fait que l'amendement sur le sexisme dans les transports n'est pas passé au Sénat. Il y a énormément de mobilisation via les réseaux. Anaïs fait un travail énorme sur la page Païta Schneck. Nous, on relaie. Qu'est-ce qu'on a fait hier soir à Nantes? On a réuni les militantes et des nouvelles qui, via les réseaux, se sont dit « il y a un souci », on a imprimé ces affiches et on les a mises dans la rue. Et moi, c'était mon but en créant Stop Harcèlement de Rue. Tout ce qui se passe sur le net, c'est très bien, mais le harcèlement de rue, il est dans la rue, donc on va aller dans la rue. Et c'est là qu'on va aussi le dénoncer. L'un nourrit l'autre. Mais pour moi, une mobilisation, c'est pas que uniquement quand des gens sur Internet sont indignés. C'est quand le bruit de fond, il va aussi partout chez ceux qui n'y passent pas leur vie aussi.
Moi, j'ai 32 ans, j'habite à Paris, dans le quartier de Belleville. Voilà, je subis le harcèlement de rue de manière quotidienne, souvent plusieurs fois dans la journée. Donc, c'est des commentaires, des sifflements glissés à l'oreille quand je croise des hommes, des commentaires sur mon physique, on m'a déjà demandé de donner ma culotte dans la rue, je me suis fait claquer les fesses une fois. Enfin, c'est toute une liste de comportements qui vont du petit chuchotement dans l'oreille quand je croise un homme à des commentaires plus précis sur les parties de mon corps, voire jusqu'à une fois ou deux où il y a une main qui a été tendue. Moi, c'est une question que je me suis énormément posée ces dernières années, de qu'est-ce que je pouvais faire pour réagir et est-ce qu'il y avait une réaction possible. Parce que le résultat de ça, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à modifier ma manière de m'habiller, de sortir dans l'espace public en me disant, ben non, aujourd'hui je passe dans telle rue, je peux pas mettre un décolleté, non, une jupe, ah si je prends la voiture, mais si je prends le métro, c'est pas possible. Enfin, vous voyez, à force, ça modifier mes attitudes et ça me posait un vrai problème. Et du coup, moi, ce que j'ai décidé maintenant, c'est que je ne laisse plus rien passer, en fait. C'est qu'un homme qui me fait un commentaire, un sifflement, un... comme ça, comme pour un chien, quand je le croise, je m'arrête et je lui dis « Excusez-moi, qu'est-ce qui vient de se passer là ?»
Le témoignage d'une auditrice, Élise, qui témoigne au micro de France Inter dans le cadre de l'émission Le Téléphone Sonne, diffusée en avril 2015.
C'est moi qui lui avais répondu.
Ah oui, c'est vous qui lui avez répondu à l'époque. Alors là, on va pas forcément lui répondre, mais simplement voir les leviers de l'action, puisque c'est ce qu'elle interroge. Et évidemment, le harcèlement de rue ne date pas de la diffusion de Sophie Peters. Et la question de savoir que faire est une question qui arrive juste après, justement, dans ce deuxième temps qui suit le témoignage. Alors peut-être on lui répond une deuxième fois, ou on répond à ceux qui nous écoutent aujourd'hui.
Non, oui, alors ça date d'il y a très longtemps. Moi, j'ai retrouvé des images du 19e siècle où on voit dans les trains des hommes se penchant et ennuyant des femmes qui ont le regard éloigné. Donc oui, et donc les techniques que les femmes ont développées pour ne pas être importunées ont certainement dû aussi bouger dans le temps. La réponse qu'on peut y donner, effectivement, pour le coup, celle-là, elle n'est pas dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à ça? Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut pouvoir dire non, parce qu'en fait, c'est le conseil qu'on ne nous a jamais donné. C'est-à-dire pouvoir se poser et dire non. Et que ça demande une prise de conscience, un travail sur les femmes elles-mêmes, pour qu'elles sachent poser leurs limites, qu'elles connaissent leurs limites et qu'elles sachent les exprimer. Et ça se fait aussi par les
calmes. Tout à l'heure, ouais. Vous disiez, Mathilde Roulon, qu'en effet, pour mettre fin à un sentiment d'insécurité, il fallait mettre fin à un sentiment d'impunité. Mais encore faut-il pouvoir formuler calmement ce nom. La peur s'invite aussi dans ces moments-là.
Oui, et il faut faire très attention dans ces moments-là à tous les discours qui pourraient blâmer la victime. Il faut pas être calme. C'est peut-être plus efficace si on est calme. Mais il n'y a pas de « il faut », voilà.
Il faut pouvoir, je dis.
Oui, c'est ça. Mais en réalité, là, les réseaux sociaux sont assez intéressants parce qu'ils permettent aux femmes de parler entre elles. Et au moment où on a monté Stop Harcèlement de rue, c'est parce qu'il y avait un hashtag qui circulait qui était « safe dans la rue ». comment est-ce que vous faites, comment est-ce que toi tu fais, comment est-ce que moi je fais, etc. Et ça, c'est un intérêt certain. Et puis après, il y a tous les outils qui permettent de savoir que ça n'est, qu'il n'y a pas d'impunité et que donc on peut le faire. Donc il y a à la fois un travail sur soi-même et aussi qui peut être fait dans des collectifs de femmes qui se réunissent pour s'apprendre des choses, enfin souvent avec des garçons d'ailleurs. Et aussi dans le climat environnant qui permet de pouvoir mieux répondre à ces questions-là.
En même temps, là, on est dans la réaction. Tout à l'heure, Mathilde Roulant, vous disiez aussi à quel point le fait de mettre la loi à l'heure de cela, à l'heure de cette lutte, était intéressante. Pourquoi on a l'impression que ça bouge pas assez vite, que tout ça est assez lent et que finalement, cette réaction est toujours un temps trop tard, hein?
Je pense que c'est en partie donc parce que le harcèlement sexiste est dans une zone grise, difficile à définir, et c'est peut-être considéré à tort comme un sujet peut-être moins important que certaines autres priorités. Or, le rôle des féministes, ou en tout cas ce qu'on aspire à faire, c'est vraiment de faire prendre conscience, et donc ça passe par interpeller tous les pouvoirs publics. Donc
on vous écoute, Annès.
Pour avancer jusqu'à être représenté aussi, parce que pour l'instant il y a un vrai souci de représentativité.
C'était le fond de ma question, Annès Bourdet, voilà. Merci beaucoup. Bien sûr, il y a quand même un levier politique qui est très important. Enfin, je sais pas, quand je vous demande pourquoi est-ce que ça avance lentement, c'est que le processus démocratique est un processus de représentation et que pour avoir des décisions prises et efficaces, il faut que ce soit des questions représentées.
Moi, je pense pas que ça avance lentement.
Ah oui?
Non, moi, je pense que, écoutez, c'est très important cet amendement au Sénat. Je vais pas revenir là-dessus. En plus, c'est ce que dit mon organisation. Je pense que c'est très important que les choses soient inscrites dans la loi. Je pense qu'aujourd'hui, dans le féminisme, on a besoin de subversion et on a besoin de changer les mentalités. Et que oui, ça passe par la loi, mais ça ne passe absolument pas que par ça. Et que ça passe par une politique d'éducation populaire et d'être sur tous les coups et de à la fois ne rien laisser passer, mais d'être toujours dans l'éducation et le changement des mentalités, le comment est-ce que on renverse la culture du viol, comment est-ce que on renverse la culture de la domination, et ça ça me paraît complètement faisable, en fait.
Mais que ce soit faisable
par la loi.
Que ce soit faisable, j'en doute pas, mais quand vous dites, moi je ne pense pas que ça avance lentement, j'aimerais bien avoir des arguments.
Écoutez, en 2012, tout le monde tombait des nues. Ça fait 4 ans.
Non, hein. Tout le monde ne tombait pas des nues. En 2012, les gens ne découvraient pas, les femmes en tout cas, ne découvraient pas qu'elles se faisaient harceler dans la rue.
Les femmes, non. En revanche,
c'est quand même la moitié du monde.
Si vous regardez les tweets à ce moment-là.
Oui, mais vous disiez tout à l'heure que Twitter n'est pas le monde.
Attendez, si vous regardez à ce moment-là, il y avait des femmes qui ont dit c'est vrai. Il y a quand même peu de femmes en France qui ont dit c'est vrai, c'est un combat. Puisque aucune organisation féministe ne s'est approprié ça. Il y a eu un tweet de Najat Vallaud-Belkacem en disant que sa loi allait tout changer. On a vu ça, hein, d'ailleurs, sa loi a tout changé. Et après, ça s'est resté dans un minuscule microcosme. Et moi, les femmes, en 2014, à qui je parlais, quand on a monté Stop Harcèlement de rue, où je pense que Payita Schneck a dû en voir un certain nombre, disait oui, mais enfin bon, t'exagères, c'est comme ça, et puis je change mes habits, et tout ça. Même les femmes, elles n'étaient pas d'accord en 2014. Hein. 2 ans plus tard, c'est discuté au Sénat, et on a une mobilisation forte, quand même, relativement forte, des milieux féministes, pour que, dans un contexte en plus très très difficile, parce qu'il se passe des choses beaucoup plus importantes aux yeux des sénateurs au Sénat en ce moment, pour que l'amendement soit mis dans la loi. Donc non, je pense que les choses peuvent ne pas avancer lentement. Je pense que c'est quelque chose d'important à avoir à l'idée, que quelques événements bien pris, bien mis en scène, allant chercher vraiment ce que les femmes ont envie, et écoutant et sortant des cadres des simples féministes de chapelle, et c'est ce qu'a fait la lutte contre le harcèlement de rue, peuvent vraiment changer des choses lentement et changer des regards. Je ne suis pas sûre que quelqu'un qui prend le métro aujourd'hui, après les campagnes, etc., s'autorise de la même manière qu'il y a 4 ans en 2012 à dire « Oui, qu'est-ce qu'elles nous font chier, toutes des salopes, après tout, on peut bien leur mettre une main au panier. »
À voir.
Pour moi, l'histoire commence pas en 2012, en fait.
Mais en plus.
C'est que le harcèlement de rue, il a un petit peu toujours existé. Donc 2012, c'est le moment où on a commencé à en parler. Mais si on regarde depuis le début du harcèlement, vous disiez tout à l'heure avoir trouvé des images du 19e siècle qui témoignaient de l'existence de ces problématiques. Je trouve pas ça rapide, non, si ça existe depuis le 19e siècle.
Je voulais avant tout préciser que j'avais 35 ans, que je sortais seule, quelle que soit l'heure, que je voyageais seule souvent dans des pays étrangers, et donc je n'étais pas quelqu'un de facilement impressionnable. Mais il y a environ un an, j'étais à la station de métro Stalingrad à Paris, et là, il y a un homme, en fait, qui m'insulte, me menace, me suit, et je le trouvais très agressif, et j'arrivais pas à m'en débarrasser. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé les bornes qu'on trouve sur les quais de métro, j'ai appelé un agent de la RATP, et l'agent de la RATP m'a dit qu'il ne pouvait rien faire pour moi, que j'étais trop sensible et qu'il fallait que j'apprenne à faire face à ce genre de situation toute seule. Donc effectivement, je me suis débrouillée toute seule, mais j'ai été très choquée. Aujourd'hui, le souvenir qui me reste, c'est plus la réaction de l'agent RATP qui m'a fait la morale que le souvenir de mon agresseur, mon harceleur.
Et j'imagine qu'elle n'est pas toute seule. Anne-Lise, auditrice qui témoigne au micro du Téléphone Sonne, diffusée toujours en avril 2015 sur France Culture. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de l'éducation populaire et du travail d'éducation populaire et d'éducation tout court, de sensibilisation. Un agent RATP qui répond que c'est pas si grave et qu'il va falloir s'arranger avec cette réalité-là, ça veut dire que sur le plan de l'éducation et de la sensibilisation, on est encore loin.
Ah oui. Ah oui, là-dessus, on est encore loin. Ça me permet de revenir sur la question. Après, je ne disais pas que les choses ne prennent pas de temps, hein. J'ai dit juste que ça peut changer vite. Les choses peuvent changer vite, en fait. Et que, par exemple, une campagne de formation des agents, ce qui est bien tout
l'enjeu de l'article 14, justement.
L'article 14, article 14 ou pas, si les régies de transport veulent former les agents, et certaines se sont dit qu'elles allaient le faire, elles n'ont pas besoin de l'article 14 pour le faire.
D'ailleurs, elles n'ont pas attendu, pour prendre l'exemple des bus nantais, pour installer une possibilité pour les femmes de descendre le soir.
Les bus nantais réagissent à une campagne gouvernementale, donc pas forcément. Mais en tout cas, nous, les échos qu'on a, c'est que les régies de transport aujourd'hui sont plutôt proactives sur la question et se mettent en ordre de marche pour organiser des formations. Bon, dont acte, on attend de voir ses premières formations, article 14 ou pas, ce qui n'empêche pas que l'article 14 nous aiderait beaucoup dans ce travail-là. Voilà, vous prenez toute une cohorte d'agents d'une régie de transport. Vous en formez la moitié. Vous vous mettez à avoir des équipes qui sont réellement mixtes, etc., etc. Vous faites une vraie formation de terrain. C'est pas vrai que les choses mettent 150 ans à changer dès qu'on a fait ça. Donc, il y a une possibilité de changer des mentalités rapidement. Un voyageur qui a sur son carnet de tickets, en cas d'agression sexiste, téléphoné à tel numéro, qui dit « ouais, c'est n'importe quoi, cet amendement, on s'en fout, etc. » aujourd'hui à votre micro. Dans 2 ans, il a passé tous les jours son petit ticket comme ça. Il l'a même pas regardé, mais il l'a passé tous les jours. Dans 2 ans, il vous dit « Oui, c'est inadmissible ce qui se passe dans le métro quand des femmes se font harceler. »
Quid de la police ? Puisqu'on disait tout à l'heure qu'il y avait aussi la nécessité de pouvoir porter plainte, se référer à la loi et donc pouvoir aussi s'adresser aux forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là, Mathilde Roulant ?
C'est très compliqué.
Je pense qu'au niveau de la police, il y a parfois des problèmes d'accueil des femmes qui sont victimes. Bien souvent, c'est le premier contact et en fait, il se devrait d'être vraiment à l'écoute, quoi. Et je pense que ça fait partie d'un problème culturel et que Oui, ça concerne la police, sans doute que au niveau de la formation, il faudrait quelques modules supplémentaires, mais c'est effectivement plus, je pense, un problème culturel quand même.
Ça veut dire quoi, culturel ?
Culturel, c'est-à-dire qu'on vit dans une société où, comme le disait Anaïs tout à l'heure, pendant longtemps, les femmes ont eu moins de droits que les hommes, une société plus ou moins patriarcale, et qu'il en reste beaucoup encore aujourd'hui. On voit, il y a la campagne de Pascal Boitard sur la publicité, et voilà, c'est des choses auxquelles on est soumis tous depuis toujours sur l'image de la femme, et ben, malgré tout, en fait, c'est intériorisé. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses comme ça à déconstruire sur l'image de la femme, la place qu'elle peut avoir dans la société, et en espérant que les citoyens de demain seront plus égaux entre eux, en tout cas entre hommes et femmes dans notre société.
Anaïs Bourdet, simplement, je vous entendais de loin depuis l'Argentine dire c'est très compliqué.
Oui, c'est très compliqué. On a énormément de témoignages qui nous expliquent les barrières auxquelles on peut se retrouver confronté au moment de porter plainte. Il y a effectivement tout le phénomène qu'on dénonce sous le nom de culture du viol, l'agent de police qui va commencer par demander comment on était habillé, ou est-ce qu'on avait bu, ou est-ce qu'on est, pourquoi on était à cet endroit-là. Et c'est des petites phrases qui paraissent complètement anodines aux agents de police, mais qui sont hyper culpabilisantes pour les victimes et qui très souvent les découragent de porter plainte, voire même d'en parler à qui que ce soit. Ça donne honte, en fait. La victime se sent tout à coup responsable ou potentiellement responsable de ce qui lui est arrivé.
Et c'est un des leviers de l'impunité. C'est-à-dire la culpabilisation de la victime est un des leviers de l'impunité.
Exactement. Et du coup, dans les instances qui sont supposées recevoir les victimes, c'est d'autant plus scandaleux que ça ait lieu dans la société en général. Déjà, ce n'est pas normal, mais alors dans ces instances-là, ça devient très très problématique, puisque du coup, on a des chiffres qui sont complètement flous, puisque je crois qu'il y a quelque chose comme 10 ou seulement 20% des viols qui sont déclarés au final, où une plainte est vraiment déposée. C'est très très faible, et c'est en partie dû à cette difficulté qu'on a. C'est déjà très difficile en tant que victime de se résoudre à en parler et de s'y mettre. Si en plus en face de nous on a quelqu'un qui nous sort des petites phrases comme ça culpabilisantes, c'est vraiment réellement terrible. Donc il est indispensable de former, de sensibiliser les agents, que ce soit les agents de police ou les agents de transport, comme il était proposé dans l'amendement de Marie Leverne.
Ouais, je vous coupe, Anaïs Bourdet, parce que Mathilde Roulant, toute connectée qu'elle est, a un téléphone portable sous les yeux, elle peut nous dire quoi?
Je voulais vous dire que Marie Leverne et tous les membres de la commission mixte paritaire donc ont trouvé un accord sur la rédaction de l'article 14 et qu'il est réintroduit dans la proposition de loi sur la sécurité dans les transports. Donc c'est déjà une petite victoire pour nous. Bravo à vous pour votre mobilisation.
Voilà. Et bravo à Anaïs aussi, parce qu'elle nous a très très vite fait des affiches super qui sont partout dans les rues de Nantes aujourd'hui.
Et comme il est 14h53, on va s'arrêter sur ces bonnes nouvelles.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richaud.
Je dis rapidement que c'est Arnaud qui est dans la séquence au singulier toute cette semaine jusqu'à vendredi. Il nous parle aujourd'hui de deux films chers à son cœur de spectateur.
Ce sont les deux premiers films que j'ai vus au cinéma. C'était la première fois que je peux aussi, quand j'étais 18 ans, je peux voir des films pour des adultes. Et c'était un film de Ken Loach, Poor Cow. Et je suis un fan de Ken Loach depuis. Pourquoi? Il fait des films avec des acteurs qui jouent pas. Ils jouent pas les acteurs, donc Ken Loach. Mais ce sont des films semi-documentaires. Ils parlent du peuple, tu vois, à l'Angleterre. Et j'étais proche parce que ma grand-mère, son père, c'était un Anglais, sa mère, une Française. Et mon père, il a vécu à l'Angleterre avec sa famille quand les Allemands sont venus en Belgique. Mon grand-père, il a pris toute la famille, il a décidé à 25 minutes, tout. On parle de la Belgique, ils ont pris le bateau d'Ostende à l'Angleterre, ce sont des premiers réfugiés, quoi. Et c'est, j'ai, parce qu'on parle maintenant de tout ça, qu'est-ce qui se passe à Dunkerque? Ma famille a fait ça, tu vois. Et je vis avec ça depuis très longtemps. On a, mon père, il a fait son service militaire à l'Angleterre, chez la RAF, les Spitfires. Et c'est un truc que je porte en moi. Et maintenant, je comprends les gens qui veulent partir. J'ai vécu ça dans ma famille. Et ça a aussi collé avec, à mon corps, à mon esprit. Et comme je suis, comme un drap mouillé, quoi. Et Blow Up, c'était les années 60. Tout à fait une nouvelle culture est créée par les jeunes. Ça n'existe pas avant. Les années 60, c'était une époque que les jeunes, c'est la première fois dans l'histoire que les jeunes, ils ont créé leur propre culture. La musique, la mode et tout le bazar, ça n'existe pas avant. Et c'était une période de la liberté. Les gens, les jeunes, ils cherchent une liberté sexuelle, politiquement, ils se battent contre le système. Et c'est la différence entre le conservatisme de... Ça n'existe pas, le conservatisme. Oui, chez les vieux. La liberté, c'était avec la mode et la musique, quoi. Et c'est dans ce film que j'ai rencontré, quand j'ai vu pour la première fois Jane Birkin, qui est venue, une sœur de moi maintenant. On se connaît très bien. Elisa, 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 saute-moi au cou.
Elisa, 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 cherche-moi des poux.
Enfonce bien tes ongles
et tes doigts délicats
dans la jungle de mes cheveux. Saute-moi au cou.
Elisa, 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 cherche-moi des poux.
Fais-moi quelques anglaises
et l'arrêt au milieu.
On a 13, 14 ans
à nous deux.
Elisa de Gainsbourg, chantée par Arnaud et Jane Birkin. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été avec nous. Anaïs Bourdet, on peut aller voir sur le Tumblr Paye ta Schneck. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le téléphone. Mathilde Roulant, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous avez annoncé une bonne nouvelle, finalement, cet article 14.
Oui, oui, c'est vrai.
Et Stop Harcèlement de Rue, on mettra un lien à la fois vers tous les liens Twitter, les liens de mobilisation. Merci beaucoup, Héloïse Duché, d'être arrivée sur le tard, mais d'être arrivée. Les Nouvelles Vagues, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est évidemment un sujet qu'il reste à traiter, retraiter et approfondir. Pour réécouter les Nouvelles Vagues, franceculture.fr pour se parler, franceculture.fr, mais aussi Twitter et Facebook. Merci à Romain Debec de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi, une émission réalisée par Somanina, avec aux manettes aujourd'hui Pierrick Monsigny.